Radio Campus vous invite aux auditions régionales des Inouïs du Printemps de Bourges, ce soir à la Copée.
Avec
Ali,
Skinny Fisherman, Malaka,
Verlo,
Ellie and the Hydra. En direct sur le 93.3.
Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour les auditions régionales des Inouïs du Printemps de Bourges 2025. En direct et en public, comme vous l'entendez, depuis la coopérative de Mai, mais plus précisément sur la scène de la Petite Copée. On s'évertuera à être précis ce soir parce que c'est important. Donc nous sommes également en direct sur les ondes radio parce que vous avez le bon goût de nous écouter sur 93.3 Radio Campus, mais aussi sur les internets www.campus-6clermont.net. Je suis Arnaud et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette soirée spéciale pour découvrir et encourager 5 projets musicaux issus de notre région. Heureusement, pour m'épauler dans cette très lourde tâche, je ne suis pas seul et c'est mon acolyte Tikos qui me donnera la réplique.
Merci Arnaud, c'est avec un immense plaisir que je suis présent ce soir avec toi en ma qualité de co-animateur. J'essaierai de rattraper tes bêtises qui seront nombreuses comme à ton habitude ce soir, je suppose. Et puisque nous avons décidé de prendre un maximum de beats ce soir, on va essayer de chauffer la salle. Est-ce que vous êtes là, la copée? Il y a littéralement 10 personnes devant moi, donc c'est pas un truc de dingue non plus. Heureusement, nous ne sommes pas les attractions principales ce soir, mais simplement vos humbles guides tout au long de la soirée. Alors, mon bon Arnaud, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Bien sûr, Stikos. Pour rappel, nous sommes là pour les auditions régionales des Inouïs, qui se déroulent un peu partout en France, entre fin janvier et fin février. Le verdict final sera annoncé en mars, pour savoir qui aura la chance de monter sur les scènes du Printemps de Bourges, notamment du 15 au 20 avril. Donc, concert plaisir pour nous, mais à fort enjeu pour les pépites que l'on va découvrir ce soir.
Et oui, en parlant de pépites, ça va envoyer du lourd. Les horizons sont multiples ce soir et notre sol auvergnat regorge d'artistes pleins de talent. On commencera avec Verlo, un vichyssois qui viendra nous servir sa meilleure électro-alternative aux inspirations hip-hop.
On aura également Ali avec son rap à l'ancienne, un flow en béton et des lyriques lourdes de sens.
On partira ensuite en voyage avec les sœurs de Malaka et leur duo folk soul enivrant et envoûtant.
Retour ensuite au rap avec Skinny Fisherman, confectionneur de textes et ambianceur en chef.
Et enfin, dans un autre registre, car finalement inclassable, Eli Enzoadra qui est avec nous tout de suite actuellement sur le plateau.
Bonsoir.
Il nous proposera sa fusion électro-rock psychédélique complètement hors du monde, c'est ça Eli?
C'est exactement ça. T'as bien parlé, c'est bien.
Donc on n'oublie pas que chaque concert sera entrecoupé d'interviews live et des artistes avec aussi des professionnels du monde de la musique. Et ouais, c'est quand même super bien foutu.
Et qui va s'occuper de ces interviews, Arnaud?
Certainement pas nous.
Et oui, parce que nous ne sommes ni assez compétents, ni assez bien payés pour le faire, parce que nous sommes bénévoles finalement. Mais par chance, nos copains et copines de Radio Campus sont venus nous prêter main forte avec chacun leurs spécificités, leurs caractéristiques bien personnelles. On remercie par avance Chaton de l'émission C'est-à-dire.
À ton service.
On en profite pour faire un peu de pub, parce que C'est-à-dire, c'est aussi notre émission avec Arnaud, etc. On aura aussi Clément et Quentin, les spécialistes régionaux du rap de l'émission Mais du respect sur Clermont. Les gars, vous êtes là ou pas? Yeah. Vous entend pas les gars?
Ils sont là, ils sont là.
Et on aura aussi Swan et Bastien qu'on connaît honnêtement pas beaucoup mais qu'on apprendra à connaître parce que c'est aussi ça, Radio Campus, de la franche camaraderie, des rencontres.
Oui, Radio Campus, c'est de l'amour, des amis, des living rooms, de la joie, de la passion, mais aussi des envolées lyriques que l'on doit tuer dans l'œuf pour se recentrer sur le principal, à savoir la soirée des 30 ans de Radio Campus qui aura lieu le 18 et 19 avril à la Maison du Peuple pour 30 heures de live incroyable.
Bon, mais on s'égare peut-être un petit peu.
Oui, légèrement. Hein,
parce qu'à la base, on n'était pas là pour faire l'autopromo de la radio, mais plutôt pour animer cette folle soirée.
Donc avant de passer au concert, c'est Chaton qui a le plaisir de recevoir tout de suite Eli and the Hydra, qui clôturera la soirée sur scène, mais dont nous allons découvrir l'univers dès maintenant. Bonsoir à vous.
Radio Campus est en direct de la Copée avec
Eli and the Hydra
pour les auditions régionales des Inouïs du Printemps de Bourges.
Salut Eli, ça va?
Salut Chaton, tu vas bien?
Bah ouais, écoute, on est super content de te recevoir pour cette soirée des Inouïs du Printemps de Bourges. Donc tu passeras ce soir à 23h20 sur la grande scène de la coopérative de Mai.
C'est exactement ça.
T'as déjà joué dans cette scène ou pas?
Jamais joué, c'est une première et en plus la grande scène c'est vraiment en mode waouh, luxe quoi. Ça okay. Fait vraiment plaisir.
J'avoue.
Bah ouais, trop chouette, trop chouette.
Grande classe.
Nous on a hâte de t'écouter en tout cas. Et petite question sur ton nom d'artiste, Eli and the Hydra, ça a une signification particulière?
Ouais, on dit ça comme ça déjà, Hydra, Hydra, Eli, Eli, comme on dit.
Le jour où je ferai la version en français, ce sera Eli et l'Hydre, mais okay. Pour l'instant c'est Eli and the Hydra. Et Eli, il se trouve que c'est mon deuxième prénom, donc mon...
Ok.
Ellie, en fait, et j'ai décidé de le styliser avec un Y pour faire écho à Hydra, du coup, qui est l'hydre. Okay. Et l'hydre, c'est un peu le grand mystère, et c'est un peu ça que je dévoile pendant le live, enfin, que j'amène les gens à comprendre, c'est en fait les voix qui accompagnent ce projet, c'est une chorale plutôt féminine, qui chante, qui accompagne les textes, et en fait, c'est, j'avais trop envie de faire un truc à la Billie Holiday and the, okay. je sais pas quoi, King Gizzard and the Lizard Wizard, tu vois, alors que c'est un peu paradoxal, je suis seul sur scène, mais l'idée, c'est de rendre toujours hommage... aux gens qui sont aussi qui participent au disque et en fait c'est un projet collectif même si je suis le visage en live quoi.
Mais c'est trop chouette parce que tu vois nous on pensait que Hydra c'était ouais. une petite référence au fait que tu faisais absolument tout seul et donc que tu avais un peu plusieurs âmes, plusieurs têtes, tu
après
vois.
On m'a dit des fois des trucs en mode ouais c'est des nazis dans Marvel et des trucs comme ça, tu vois, j'étais en mode non mais des trucs nazis. Des refs en mode
mais il y a oui
Lee bah, oui, dans Marvel, des trucs comme ça, ouais. ça
non, on m'a sorti des trucs comme ça, j'étais en mode mais pas du tout, je parlais pas du tout de ça
un peu trop loin.
Ouais vraiment.
Oui, je préfère notre interprétation.
Pour moi c'était la ref aussi à l'hydre, c'est un monstre mythologique en fait qui a plusieurs têtes et l'idée de la chorale c'est vraiment d'avoir plusieurs têtes qui portent le projet en même temps que moi quoi.
Ok bah trop voilà. chouette, donc aucun rapport avec le fait que tu as l'air de savoir jouer absolument tous les instruments de la guitare à la basse en passant par le MAO clavier et j'en passe.
C'est ça à peu près ouais, je dis pas que je les joue tous bien mais
nous on te dit que tu les joues tous bien
assez pour qu'on faire a pu la écouter, blague
oui, tu les joues tous assez bien
je fais pas les batteries par contre sont faites par un ami à moi qui s'appelle Joseph qui est un super batteur et pour le coup lui c'est pas moi qui fais la batterie okay. parce que le niveau est beaucoup trop élevé quoi vraiment.
Ok, trop chouette. Et niveau musique, du coup, jusqu'où tu pousses le truc? Tu fais les mastering et mixing toi-même aussi? Ou bien ouais. t'as quand même une limite à ton talent ou...
Bah, je l'ai fait plus ou moins bien. Je sais pas, mais en tout cas, ça fait.
C'est hyper
taf.
Propre en tout cas quand on
c'est super propre. Ton dernier EP, La Love, c'est super propre.
Ça me fait super plaisir que vous disiez ça parce qu'en fait, à un moment, t'as plus aucun recul. En fait, quand tu travailles en vase clos, en plus, je demande toujours des avis autour de moi et lorsque, à chaque étape du processus d'enregistrement et tout, quoi. Mais à un moment, tu peux devenir complètement fou, en fait. À un moment, t'as aucun recul. Et ça se trouve, t'es en train d'écraser ton truc en faisant du mastering, t'écrases ton son, et du coup, résultat, ça, c'est pas OK. Enfin. Donc je suis aussi aidé quoi, mais c'est vrai que...
Et du coup le processus par rapport à ça c'est quoi exactement? Tu vas créer quelque chose, tu enregistres toi-même, etc.
Ouais voilà, ouais. Ouais, ouais
c'est, seul,
du,
à ce moment-là,
c'est du home studio plus quoi.
Et ouais. donc justement pour pas péter un câble et venir faire du master plus ou pousser le truc, tu fais écouter autour de toi
Ouais voilà, ouais c'est ça, et je teste aussi sur plein de supports, je vais faire la fameuse écoute dans la voiture, voir si okay. ça passe, des trucs comme ça quoi. Mais,
est-ce que c'est pas un peu complexe d'être sur... Surtout le processus de création du début jusqu'à la fin, au risque d'être toujours envie de modifier de...
Oui, et stopper, je suis devenu beaucoup trop fou et plus jamais je repasserai autant de temps à revoir des détails, réenregistrer un truc okay. et tout. C'est un peu une erreur et on peut se perdre là-dedans, même si au final je suis très content du résultat. Mais en fait, c'est un parti pris en fait, finalement, que de mixer soi-même. C'est-à-dire que comme je fais une musique un peu hybride à la base, il n'y a pas tellement de références qui ressemblent exactement à ce que je fais.
Donc il n'y a pas de template déjà prêt.
Voilà, tu vois, donc où il n'y a pas en mode tel ingé son qui est spécialiste vraiment de ce style-là, qui le fait super bien, etc. Moi là, je voulais sur ce premier EP aller le plus loin possible avec ce que moi je peux faire seul. Et arriver à un résultat finalement assez personnel, assez, comment on dit...
En tout cas, et ça se ressent beaucoup. Vois. Moi, je ne connaissais pas du tout avant qu'on sache, qu'on t'interviewe, etc. Ouais. Quand on écoute sur Spotify, on sent vraiment qu'il y a une patte, un truc qui ne ressemble pas au reste.
C'est un peu ça que je voulais faire. Du coup, c'est un risque aussi. Ça fait que c'est un peu plus imparfait. Mais résultat, ça me ressemble plus.
Okay.
Pour l'instant, ça me va comme façon de travailler, quoi.
Okay.
Donc c'est cool.
Bah non mais super intéressant. Donc du coup t'as quand même une équipe autour de toi ou tu dans le processus de création t'es quand même très seul.
Ouais.
L'équipe elle intervient après coup
intervient
pour
après.
Te redonner un retour ou autre.
Ouais
ou...
c'est ça. Déjà il y a des musiciennes et des musiciens incroyables qui participent au projet. Mais c'est vrai qu'il y a un peu le côté j'arrive avec une idée de base en mode bon voilà j'ai écrit une sans rentrer dans la technique mais j'ai écrit une batterie en MIDI donc programmée sur ordi je la donne au batteur et ensuite le batteur il réinterprète à sa manière et le but c'est de se nourrir des autres musiciens parce que sinon ça sonnerait pas comme ça en fait si je faisais le truc absolument seul et que je décidais de chaque micro détail finalement ce serait pas aussi libre enfin le but c'est aussi voilà quoi
et donc l'hydre c'est ça c'est les autres tous les autres qui sont autour de toi finalement un peu tout ça quoi.
Au final c'est ça ouais alors je voulais à la base que ce soit sur tous les enfin c'était pour décrire la chorale qui chante qu'on entend mais au final c'est tout ça aussi c'est tous ces gens qui sont autour de moi et voilà quoi.
Mais est-ce que c'est une volonté de ta part du coup que ce processus créatif il soit vraiment centré sur cette solitude ou c'est
En un sens, oui, parce que j'ai envie de rester. Enfin, c'est un peu. J'ai envie de rester maître du truc au sens où c'est quand même mes compositions.
Envie de déléguer, quoi.
C'est mes... Ouais, voilà. Mais par contre, une chose, c'est composer et trouver des idées. Et autre chose, c'est faire de la réalisation. Et la réalisation, en fait, là, il y a plein de gens qui peuvent intervenir, tu vois, et vraiment donner une patte et voilà, quoi.
Ok. Mais du coup, dans la continuité de tout ça, est-ce que, comme Stick l'a déjà un peu dit, c'est vrai que ta musique, elle est unique. Elle est très compliquée à décrire. Mmh. Est-ce que tu peux tenter de nous décrire ce que c'est ? Nous, on a essayé de notre côté, mais le mélange de genres est tel qu'on on a du mal. On a vu un peu du rock psyché 70s, ouais. Du Pink Floyd, du Mama and the Papas, de l'électro français, un peu plus mainstream, style Headbangers, tout ça. Il y a un peu du stoner psyché, presque un petit peu du métal de temps en temps, une touche de variété. Enfin, c'est nous voilà, on a tenté un peu, mais c'est aussi la richesse de ta musique, moi je trouve. Mais est-ce que toi t'arrives à nous donner une description peut-être un peu plus fidèle que ce qu'on vient de faire?
Non, mais déjà vous l'avez super bien décrit, parce qu'en fait il y a plein d'influences qui se recoupent. En gros, pour le raconter, pour le dire de manière un peu en histoire, moi, j'ai grandi en écoutant surtout du rock progressif et du rock psychédélique et des trucs comme ça, vraiment des trucs en mode 60s, 70s, Bresson, dont beaucoup de gens s'en foutent aussi aujourd'hui, tu vois. Donc, j'ai grandi en écoutant ça et j'ai grandi en Espagne. Donc, c'est ça qui
okay.
Je sais pas si vous aviez prévu peut-être d'en parler.
On n'avait pas l'info. Donc
voilà, je suis français espagnol. Donc, d'accord. Moi, j'ai grandi en fait toute ma vie en Espagne.
Como estas?
Écoutez ça, perfectamente. Como estas tu?
C'était ma limite. C'était ma limite.
Et en fait, en arrivant en France, c'est là que je découvre toute la scène électro. Découvre les musiques plus mainstream à la Headbanger.
La fameuse French Touch, quoi.
La fameuse French Touch. Même si aujourd'hui on écoute de tout en Espagne, mais à l'époque, ça arrivait pas jusque-là. Pas tant que ça. Si les gens connaissaient un peu Daft Punk, mais. Et en fait, voilà, j'arrive en France, je découvre ça, et tout de suite, je tombe amoureux de la culture du club, la culture de la musique électronique, et les trucs comme ça. Et à un moment, c'était un peu évident que j'avais envie de rallier un peu ces deux styles-là, qui sont vraiment le rock psychédélique et la musique électronique. Surtout que je pense qu'il y a un vrai esprit commun entre un peu les hippies, les gens du Summer of Love. En fait, il y avait une volonté chez ces gens-là dans les années 60, les Woodstock et tout. C'est des gens qui, ce qu'ils voulaient, c'était plus de liberté sociale, c'était plus de liberté affranchissement. Enfin, il y avait la guerre au Vietnam, il y avait un truc politique aussi, il y avait un truc de libération des mœurs sexuelles, etc. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve aussi dans la rave et dans la musique électronique, en fait. Et j'avais vraiment envie de faire le match entre les deux, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que j'explique moi en version longue.
Ok, ouais, non, c'est une rencontre en fait, ta musique du coup.
Ouais, c'est ça.
Ok,
c'est ça.
Super.
C'est comme ça que je la conçois.
Et si on passe un peu à ta discographie, j'ai noté pas mal de remixes, de reprises, de collabs.
Ouais.
C'est important pour toi de partager avec d'autres artistes, en plus vu que tu as un processus du coup assez solitaire. Est-ce que derrière c'est important de venir partager ce processus avec d'autres?
Bien sûr. En fait, ce que j'aime bien avec les remixes, c'est que... tu vois, c'est pas juste prendre un morceau et dire vas-y, je vais faire un edit un peu dance. Ce que j'aime bien, c'est me dire ok, qu'a voulu dire cet artiste avec cette chanson ? Et maintenant, on va essayer d'en proposer une relecture un peu, tu vois, exploiter un des aspects de la chanson, tu vois, dans le style. Le premier remix que j'avais fait, c'est d'un groupe qui s'appelle Grandma's Ashes, qui est un groupe de stoner rock trio féminin. Et elles avaient fait cette chanson sur un lendemain de gueule de bois. Moi, j'ai voulu raconter avec leur mix la soirée qu'elles ne racontent pas elles dans leur chanson, tu vois. Okay. Enfin, tu vois, c'est un peu ce truc, tu vois, c'est en dialogue avec les artistes, c'est ça qui est cool, je pense.
Et du coup, pour faire ça, tu parles avec eux. Enfin, comment ça se passe?
Je pars du texte. Je pars du texte, en fait. Okay. Simplement, j'écoute les paroles, j'écoute le son, je vois que ça parle de ci, de ça. Et en fait, tout seul, je me fais mon film et je me dis, ok, mais en fait, ce truc, il parle de ça. Mais il y a un arrière qu'on raconte pas, tu vois.
T'as pu avoir des retours des gens avec, enfin comment dire, ils ont pu te dire ce que ça leur faisait, ton remix, etc.
Ah bah oui, bien sûr. Ouais, j'ai toujours des retours. Bah oui, quand tu travailles avec des artistes et que tu fais des remix, il y a une, même si t'as la liberté, t'as une phase de validation quand même, où t'envoies le truc en mode ça va, vous êtes ok de sortir ça, oui on est ok de sortir ça et tout. Donc bien sûr t'as un moment d'échange, mais après j'ai toujours eu la liberté de faire un peu ce que je voulais, quoi.
Du coup c'est plus en fait toi, ton écoute à toi, d'autres artistes qui va venir te donner ces idées là de partage, de collab, de remix,
interpréter un son, quoi. Interpréter,
trop chouette. Et donc du coup côté projet, donc il y a l'EP Love, sorti en 2024, qu'on recommande vraiment à toutes et tous d'aller écouter. C'est celui-ci que tu vas proposer ce soir, je suppose, ou
Il y a aussi des nouveaux morceaux que je suis en train de composer, que je suis en train de, comme beaucoup de groupes, que je rôde en live finalement, parce que tu te rends compte, est-ce que ça c'était assez long, est-ce que c'est bien, est-ce que... Donc il y aura un peu de tout, il y aura stoppé là, il y aura aussi des nouvelles choses, et je proposerai aussi des versions un peu réarrangées pour le live, parce que j'aime bien changer les trucs à chaque fois.
Marrant que tu dis ça, parce que du coup, effectivement, on sent quand on écoute un peu ce que tu fais, que tu as un rapport assez particulier avec le live, en tout cas un rapport très présent.
Moi, j'adore ça.
J'invite tout le monde à aller jeter un œil à The Lives in the Garden, qui sont des pépites, honnêtement.
C'est vrai.
C'est assez original. Enfin, comment est-ce que ça t'est venu, cette idée de faire des lives dans ton jardin?
Je vivais dans cet appartement, il y avait un jardin communautaire où vraiment c'était un truc, tu vois, c'était pas, en plus pendant le confinement, tout le monde se retrouvait là-bas, les voisins, pour boire des coups, et tout, c'était super bonne ambiance, et on s'est dit un jour mais il faut faire une live session là-dedans, etc. Et ça a pris du temps en fait, mais on l'a fait avec les moyens du bord, avec, tu vois, filmé avec des iPhones, vraiment comme on peut, et c'était vachement cool, parce que je pense que c'est, en plus ce côté jardin fleuri et tout, c'est quelque chose qui ressemble un peu à ma musique, tu vois, même si elle est assez électronique. C'est un peu nocturne comme musique.
Non, mais c'est clair que visuellement, ça rend visuellement super ça... bien.
Ouais, puis ça m'aide aussi à clarifier le propos et de montrer que je fais pas que de la dance music et qu'il y a aussi un peu un côté psychédélique, 60s, 70s, un peu comme ça, quoi.
En tout cas, moi, le mélange des genres, je le trouve vraiment totalement réussi. Et puis, tu réussis à réunir des styles qui sont assez opposés au final. Mmh. Et on a vu, du coup, que tu sembles être aussi un aficionado de l'orgamonde.
Ouais, j'aime bien. Ouais.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'orgamonde ? Parce que c'est quand même super rare.
C'est un instrument mythique.
C'est un instrument mythique, ouais. À la base, il y avait les orgues d'église, donc qui sont des énormes tuyaux de 20 mètres dans les grandes églises. Enfin, voilà, celui, par exemple, de la cathédrale de Clermont, il est magnifique. Enfin, voilà. Voilà, on en trouve dans énormément d'églises et tout. Et à un moment, dans les années, je sais pas, 40, 60, 50, il y a des ingénieurs qui se sont dit, on va en faire une version électronique. Donc résultat, c'est un synthétiseur, mais qui a un son très particulier, parce que en fait, on fait passer les accords, enfin ce que l'on joue passe dans une cabine qui s'appelle cabine Leslie. En fait, c'est un haut-parleur qui tourne très vite. Donc résultat, t'entends le son comme si je parlais, tu vois, en mode... Ça fait une sorte de trémolo, et c'est un son super particulier qu'on retrouve dans tous les disques des années 60, 70, enfin encore aujourd'hui.
C'est le truc mythique de Woodstock un peu et tout.
Voilà, tu vois, et en fait c'est un instrument super rock, parce que, tu vois, tu mets une disto dessus, et tout de suite ça a une attitude, ça a un truc de ouf, en fait. Et au fond, il y a plein d'artistes aujourd'hui qui commencent à réutiliser ça, je pense à... Comment il s'appelait l'album de Childish Gambino, où on retrouvait des sons comme ça, là. Celui avec...
Je vois. Après,
tu vois lequel
je... Tu vois, et... Au départ, justement, c'était assez, assez fou, parce que l'utilisation qu'il en faisait, elle était assez éloignée de l'utilisation de Woodstock, enfin l'époque Woodstock, tout ça. Et c'est chouette, parce qu'en fait, du coup, c'est... Puis dans le rap américain, comme ça, c'est vrai que c'était une utilisation assez, assez unique.
Clairement.
Et je trouve que c'est une... Enfin, l'utilisation que t'en fais, elle est aussi très... Ça vient s'intégrer dans l'électro, tout ça, donc c'est...
Ouais, tu vois, l'idée, c'était... Tu sais, dans l'électro, t'as des trucs avec des basses qui font en mode tac 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 tac, et à un moment, t'as envie de mettre un sample qui cut, tu vois, genre qui... tac 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 tac, tu vois, mais au lieu de mettre un synthé, je te dis, on va mettre de l'orgamone, tu vois. Et tout d'un coup, tu fais le... Et c'est rigolo, tu vois, tu fais le...
C'est stylé.
Mais du coup, nous, on avait une question de toute l'équipe de Radio Campus. On a un peu dig ton Insta, comme on fait à chaque fois. On te voit avec pas mal de guitares, et notamment avec une guitare qui a deux espèces de cornes. Alors ça nous a trop intrigué. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette guitare?
Cette guitare est une Dan Electro qui est récente. Enfin, je l'ai achetée il y a un an à peu près. Ils continuent de les fabriquer. Hein. C'est pas du tout un instrument vintage ou quoi.
Ok.
Mais du coup, c'est les Dan Electro, en fait, c'est des guitares très particulières qui sonnent un peu crade, un peu garage. C'est pas des guitares qui ont une définition super belle, etc. Mais ça sonne un peu crade, mais c'est rock, quoi. Surtout quand j'ai vu celle qui avait cette forme de lyre un peu, parce que ça me fait penser à une lyre directe, il y a une espèce de longue corne, elle s'appelle la Dan Electro Longhorn.
Okay.
Et je me suis dit, en fait, il y a un truc un peu storyteller, un peu, tu sais, quelqu'un qui va venir te raconter des histoires avec une lyre, tu vois. Et je me suis dit que tout de suite, il y avait, enfin, je sais pas, je l'ai vu, j'étais, franchement, le look a beaucoup joué, quoi.
Visuellement, en tout cas, c'est clair que ça te donne un look assez unique, quoi.
Oui, mais les guitaristes puristes, parce que je suis pas guitariste de base, j'ai appris ça sur l'auto, mais sur le, voilà, et les guitaristes puristes sont un peu en mode, mais c'est quoi ce truc? Moi, je joue sur une Jackson 6 cordes. moi je fais du métal.
C'est Gibson et c'est tout.
Et moi je fais bah voilà, c'est ma guitare quoi.
Mais en tout cas ok bon bah trop chouette. Enfin, nous ça nous a bien plu visuellement après personne en joue.
Visuellement c'est hyper stylé.
Vraiment.
Et elle est surtout super légère parce que
elle attire l'œil quoi sur la photo.
Je la passe derrière le dos en live. J'ai besoin de faire des trucs vu que je fais d'autres choses aussi. C'est pas une guitare comme une vraie Les Paul.
Elle est plus courte que les autres au final non?
Elle est petite en fait. Le manche est très rentré dans le corps de la guitare. Et résultat t'as un truc un peu. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est original, mais je la kiffe, c'est ma guitare. Quoi.
Bah non, mais trop chouette. En tout cas, nous, on a validé ici à Radio Campus, et il nous reste 5 petites minutes, mais j'avais une dernière petite question à te poser.
Oui.
Je me demandais comment c'était aujourd'hui d'évoluer dans l'industrie musicale en 2025, parce que ça fait quelques années maintenant que les propositions musicales sont assez abondantes.
Oui.
Faire de la musique, c'est devenu beaucoup plus accessible, l'offre musicale en elle-même est devenue plus diversifiée, parce que voilà, c'est devenu aussi plus démocratisé aujourd'hui d'avoir accès à un instrument de musique, un logiciel pour mixer, pour enfin voilà.
Ouais, bien sûr.
Est-ce que c'est complexe aujourd'hui d'évoluer dans cette industrie en tant qu'artiste ou au contraire est-ce que pour toi tu trouves que c'est à l'inverse plutôt favorable justement à ce qu'il y ait plein d'éclosions de différentes créations ou
sur cet aspect technique, moi je pense que c'est génial qu'on ait que les moyens de production se soient démocratisés parce qu'en soi tout le monde peut vraiment tout le monde a un truc à dire, je pense, tu vois, et en soi, qu'on ait tous ces outils-là, c'est une très bonne chose. Mais après, on peut facilement se perdre, parce qu'aujourd'hui, on a très facilement accès à des bibliothèques de sons, on peut en fait facilement, surtout dès qu'on a un ordi et qu'on apprend à faire un peu de la MAO, donc la musique assistée par ordinateur, il y a tout de suite un truc où on peut se noyer dans toutes les techniques possibles, on peut se noyer dans un milliard de choses à faire. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est bien, mais il faut savoir aussi avoir... Je pense que c'est ça aujourd'hui l'enjeu d'un artiste en 2025 dans l'industrie actuelle, c'est de savoir faire un truc un peu à sa façon, quoi, parce qu'on assiste aussi de manière générale, je pense, à ce qu'on pourrait appeler une nichification de l'industrie, ce qui est une super bonne chose en fait, parce qu'aujourd'hui on peut par exemple être un artiste de, je veux dire n'importe quoi, mais de reggae punk en anglais ou je sais pas quoi, un truc super niche en France, bah tu vas trouver des festivals où il y a 2000 personnes en France qui aiment ça et tu peux en fait à peu près en vivre, tu vois. Aujourd'hui tous les styles sont acceptés et je pense qu'il y a des publics pour tout et ça c'est une super bonne chose. Par contre on a le problème du fait qu'on gagne pas d'argent à cause des streams, donc tout le monde se rabat un peu sur le live et on sent qu'il y a un peu une compétition, du coup le milieu est un peu serré, quoi. Donc faut se battre un peu pour faire sa place. Mais je dirais pas que c'est une période spécialement en tout cas spécifiquement compliquée pour la musique par rapport à d'autres milieux. Tu vois, je pense que dans les autres milieux créatifs, s'il y a un peu les mêmes galères, il y a un peu les mêmes trucs, tu vois, les mêmes outils. Aujourd'hui, en photo, tout le monde peut faire de la photo aussi, tout le monde peut faire du graphic design. Donc, le problème, je pense, c'est pas la démocratisation de la technique, mais c'est plus le fait que vu que tout le monde peut faire un peu quelque chose, c'est bien d'arriver à trouver son... Pour moi, l'enjeu, c'est de trouver sa voix, quoi. Donc, okay. C'est un peu ça, mon avis. Je sais pas, j'ai répondu de manière un peu éparpillée, mais...
Non, mais au contraire, c'était très intéressant. Et avant d'aller voir Verlo, j'avais juste une dernière petite question avant de rendre l'antenne. Toi, du coup, comment est-ce que tu fais pour travailler sur tous les aspects extra-musicales qui sont, qu'on le veuille ou non, hein, qui sont ultra importants aujourd'hui, la communication, le marketing, travailler ton image, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais avec simplicité, avec plaisir? Est-ce que c'est plus complexe? Est-ce que t'as besoin d'être beaucoup plus entouré pour ça parce que c'est pas forcément quelque chose d'inné? Enfin, voilà, comment est-ce que tu peux gérer ça?
J'ai un peu ce défaut de je n'arrive pas à faire ce que j'aime pas trop faire. Je me motive pas trop en tout cas à faire les trucs les choses que je fais en tout cas je les fais avec plaisir, donc ça fait que j'ai pas une communication super abondante non plus. Tu vois, c'est ce truc où t'es en répète par exemple
et, t'as pas envie de prendre une photo et de la poster, quoi.
Non, c'est pas ça, c'est juste ils pensent pas, si t'as pas l'habitude on en parlait d'ailleurs avec la responsable de la communication d'ici de la coopérative de Metz, c'est que c'est un métier en fait à part entière.
Ouais, bien sûr.
Donc on fait les trucs un peu comme on peut. Il y a des gens qui sont super forts à ça. Moi, je suis pas super fort, mais bon, il se trouve que j'arrive à me démerder un minimum. Et pour ce qui est ensuite de la DA, etc., ben, j'ai la chance de travailler avec Aura, qui me manage, mais qui fait aussi toute la DA. En fait, on l'a réfléchi ensemble. Et l'idée, c'est vraiment d'accoucher d'un truc qui me ressemble, quoi, tu vois. Donc, c'est jamais forcé non plus.
Ouais.
Et finalement, on fait ça avec plaisir. Quand on va aller faire les fripes pour trouver des tenues, pour des trucs comme ça, c'est toujours dans la joie. Et au final, ça fait vraiment plaisir, quoi. Donc non, je dirais pas que c'est... Il y a beaucoup de gens à qui ça dérange. Je pense effectivement le fait de devoir faire tous ces à côté. Mais d'un autre côté, bon, voilà, on a l'opportunité de le faire. Et donc au final, bon, faut le prendre un peu avec philosophie, en mode, ok, ça me saoule, mais je peux le faire et ça va, tu vois.
Après, est-ce que la place que ça prend, c'est quelque chose qui t'interroge aussi? Ou est-ce que tu comprends ce que ce soit aujourd'hui?
Je pense qu'on est complètement dépassé. Je pense que globalement, mais pas que les musiciennes et les musiciens, je pense que globalement, on est hyper dépassé par tout ce qui est réseau, tout ce qui est communication, tout ce qui est algorithme, qu'est-ce qu'on voit, à quoi on est sujet, en fait, dans les contenus qu'on voit sur nos feeds, qu'est-ce que nous, on peut proposer. Enfin, je pense que personne ne sait ce qu'il fait très bien. Donc, en soi, je pense que je suis en mode roll with the flow.
Et ouais, puis, c'est peut-être aussi la difficulté, ça répond à ce qu'on disait tout à l'heure, de dire, en fait, il y a tellement d'offres aujourd'hui, il y a tellement de possibilités, qu'il y a aussi parfois certains artistes ou autres qui vont peut-être plus axer ce côté communication marketing.
Il y en a qui sont super forts, qui aiment vraiment premier degré faire ça et le font super bien. Donc du coup, c'est comme naturel, quoi, pour...
Mais après, en fait, la réflexion en tant qu'artiste de savoir jusqu'où on va et quelle place on laisse à tout ça, et jusqu'où est-ce que ça vient pas empiéter sur l'aspect vraiment création et proposition musicale. Ouais. Est-ce que c'est une question que toi tu peux te poser en tant que jeune artiste? Est-ce
bien
que
sûr. C'est... En fait, le truc, c'est que tant qu'on est un jeune artiste et qu'on n'est pas super accompagné par des partenaires professionnels, en fait, c'est ça la difficulté aujourd'hui. C'est facile de montrer son travail, mais t'es dans une phase où t'es en mode seul tout, alors que quand t'es accompagné avec d'autres gens, etc., tu vas pouvoir travailler avec d'autres gens dont c'est le métier, et tout d'un coup, c'est plus du tout la même chose, quoi.
Ok, ouais, c'est la différence entre la professionnalisation. Ok, bah écoute, merci beaucoup, Eli. Je pense qu'il est l'heure qu'on rende l'antenne pour aller écouter Verlo.
C'est parti. Du coup, on est parti, ouais. On vous remercie tous les deux. Merci pour
merci beaucoup, Eli, d'avoir été avec
c'est parti
nous.
Pour
vraiment,
Verlo.
Merci beaucoup.
Eli, on te retrouve à 23h30, Eli.
Merci.
Let's go pour Verlo, ça va être trop bien.
Let's go. Allez.